Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas, parce que ça se voit pas forcément, et que
Ça
ça
se
se
dit
dit pas
pas.
en fait. Ça se dit pas, ça ne se dit pas.
Je crois que ça va le micro là. La table elle arrête pas de bouger aussi là. Podcast, facteur de protection, espace de parole sécurisé, outil de résilience, côté thérapeutique, création artistique, le kiff, l'humour, le podcast lubie, combler le vide, fuir, s'ancrer, blablabla.
Ouais, moi je sais pas si je l'ai trop à aucun moment vécu comme ça, perso. Personnellement. Ah oui, tu veux dire. Oui, si.
Excuse-moi, mais.
Oui, non, mais je voyais pas ça comme une lubie.
Faut que je fasse quelque chose, quoi.
Parce que
pour
moi.
Faut que je trouve un truc à
oui,
faire.
oui, non, mais lubie pour moi, ça veut dire. Tu vois.
Le mot est pas bien choisi, mais.
Ouais, c'est pas une lubie. C'est juste qu'effectivement, me fixer sur ce travail-là, oui, carrément, ça m'aide parfois.
Non, mais c'est on a besoin de faire, quoi.
J'adorais ta tête.
Non, mais. Mauvaise foi? Non.
Ça se dit pas?
Les coulisses.
Ça va? Pas trop froid?
Si, j'ai un peu froid quand même.
Même avec la veste, toi?
Aux mains, faut que je range mes mains. Radio Pôle Nord.
Donc nous, on avait.
Je me rappelle plus.
Mais si, on avait commencé à échanger par message, plein de messages, et en fait, ça faisait un moment qu'on se disait, mais ces messages. Ce serait cool d'en faire quelque chose. Et ça faisait un moment qu'on se disait ça et on savait pas trop quoi. Et on trouvait que c'était intéressant parce que ça témoignait quand même vachement de notre expérience de notre trouble et de la vie avec ce trouble au quotidien, quoi. Et en fait, ce qui est marrant quelque part, c'est que le premier podcast, il est arrivé. Enfin, c'était pas du tout quelque chose de. On n'avait pas réfléchi le truc au-delà de ça, en fait. On savait juste, enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais
oui.
On n'avait pas dit. Si, alors toi, tu m'avais dit, mais tu devrais faire des podcasts, tout ça.
Oui, en fait, c'est toi qui l'as confectionné sans forcément. Il n'y avait pas forcément de but premier, en fait, autre que de créer.
C'était pour nous, en fait. Oui. Je l'avais fait pour nous, avec quand même une idée derrière la tête de bah si de qu'est-ce que ça pourrait donner, c'est-à-dire que j'avais envie de faire un test en fait. Et puis quand même aussi, c'est vrai que ces podcasts, ils nous ont permis de nous rencontrer de manière
bah c'était ça en fait, c'était aussi voilà. notre rencontre hein. Voilà. Notre rencontre a fait que on a beaucoup beaucoup échangé en fait et vu la situation sanitaire et vu nos différentes phobies et nos différents troubles, en fait ça a été le moyen en fait d'échanger et on a eu d'énormes discussions
mais donc on les a créés aussi
pour en faire quelque chose en fait. Pour que ce soit parce qu'en fait on se disait que c'était ça nous appartenait à nous, mais en fait il y a plein de personnes qui vivent ça aussi en fait, donc c'était l'idée aussi de donner la parole à ceux qui n'en ont pas hein. Je dis souvent ça, mais c'est ça hein, aussi
ouais. Ce qui est marrant aussi par rapport à notre rencontre, c'est que c'est à double sens, c'est-à-dire que ça nous a permis de nous rencontrer en vrai aussi, ces podcasts. Ça c'est quand même pas négligeable, c'est-à-dire que ça nous a donné à un moment donné une raison entre guillemets, enfin une
ouais pas une raison mais une impulsion je pense
ouais.
Oui, une raison dans le sens enfin on se serait vu
oui
quand
bien
même,
sûr, mais
vois,
quelque part il fallait en trouver une à ce moment-là peut-être, ou je sais pas, ou peut-être qu'on l'a créé pour ça aussi, tu vois, je pense qu'il y a eu
je
ça
pense
aussi.
Que c'était en fait il y a pas vraiment de ça s'est fait quoi en fait,
c'est ça exactement. Mais ce qui est marrant c'est que ça joue en aller-retour, c'est-à-dire que la confection des podcasts joue sur notre rencontre et notre relation. Et notre rencontre et notre relation est complètement partie prenante des podcasts.
C'est
donc c'est ça qui est à la fois...
C'est marrant, quoi.
C'est marrant, c'est génial, moi, tout ça.
Ça a été dur de se rencontrer aussi, finalement, tu vois. Et le fait, d'avoir cet outil magnifique qui est le téléphone et de pouvoir enregistrer des messages, ça nous a permis d'aller dans des profondeurs, mine de rien, tout en étant... en ayant cette sécurité, enfin, ça nous permet en fait d'échanger de façon sécurisée et petit à petit et d'avancer petit à petit.
De prendre le temps de.
Ouais, d'avancer dans nos échanges.
De prendre le temps de se sentir en sécurité,
c'est
dans,
ça.
Dans la relation et dans l'échange.
Pour pouvoir en fait aller.
À chaque fois un peu plus loin.
Un peu plus loin et pour pouvoir se sentir à l'aise d'exprimer certaines choses en fait. C'est ça quoi, c'est vraiment ça. Ouais.
Mm. c'est aussi pour ça que pour nous ces podcasts sont thérapeutiques aussi. Enfin, en fait, ils le sont à plein de niveaux. Il y a le côté. Enfin, moi, j'ai la sensation qu'ils le sont à la fois par rapport à notre propre trouble, parce que le fait de pouvoir en parler, le fait de pouvoir exprimer ces choses-là qui on est, etc. Ça nous fait aussi travailler dessus en plus.
Bah, ça nous fait aussi avoir un recul face, voilà. Face aux troubles et face à ce qu'on a vécu.
On compare aussi nos expériences, toi et moi, tu vois. Il y a des choses sur lesquelles on se rejoint, mais d'autres pas forcément. Ça, c'est super enrichissant aussi.
Oui, puis ça permet de pas banaliser en fait les choses aussi, enfin de pas catégoriser les choses. Les choses sont pas, ne s'expriment pas d'une façon, on ne les vit pas d'une seule façon. On les vit, voilà, des fois c'est similaire, des fois ça l'est pas. Et
je pense qu'on se pousse et on se soutient mutuellement et on se pousse à travailler en fait sur nos difficultés, et ça, je pense que c'est hyper stimulant et en même temps.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que aussi nos discussions. Elles sont souvent provoquées par le quotidien de la société, en
c'est
fait.
Ça.
Aussi, tu vois, tout ce qu'on voit, toute la rage qu'on peut ressentir au jour le jour, à travers des discriminations, hein, pour de vrai, mais que ce soit... Mais voilà, bon, là, après, c'est mêlé, hein, c'est que ce soit des discriminations au niveau du trouble psy, ou le fait d'être une femme, ou le fait... Voilà, de la classe sociale, bon, tout ça.
Mais en plus, quand même, on l'abordera sans doute dans un autre podcast, mais le fait d'être une femme avec un trouble émotionnel, bon, je pense que déjà, en soi...
Non, mais c'est ça, c'est ça que
rien que quand t'arrives à l'hôpital ou quoi, des fois... Enfin, moi, c'est des choses, tu vois, que j'ai pu vivre, hein, c'est pas toujours super... prise au sérieux.
Et
hein,
puis non, mais c'est ça. Non, mais, ouais. Mais ça, ça fera effectivement l'objet d'un podcast, d'un épisode entier, mais... Ouais. Mais sans rentrer dans les détails, ne serait-ce que cette identité-là, entre guillemets, de femme avec un trouble psy et un trouble en plus émotionnel, en fait, c'est super stigmatisant de vivre ça au quotidien. Et,
oui, parce que je pense que ce que toutes les femmes vivent déjà, nous, je pense que parfois on le vit puissance 10 000 en fait.
Je pense aussi, ouais.
Parce que notre parole est en plus tout le temps remise en question du fait de notre oui, pathologie,
c'est
en fait.
C'est donc, ça. C'est ça. Et du coup, ça forcément, vu qu'on le vit chacune au quotidien, forcément, ça provoque en fait des échanges et des discussions et la création de ces épisodes aussi.
Vu les insomnies que tu te tapes, tu te demandes pas trop pourquoi t'es super crevée. Hein. Enfin, tu l'as ta réponse. Hein. Tu dors pas.
J'aime pas du tout le mot gigogne, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à cigogne, mais sauf que je préfère vraiment cigogne.
J'aime pas les oiseaux.
Non, je suis pas surex, non, je suis pas surex, pas du tout.
Mais calme-toi, petit kiwi, ça prend le temps qu'il faut.
Aïe, 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 aïe. La vraie vie, la vie, la vraie.
Ces podcasts, ils ont des conséquences sur nous, ils ont des conséquences sur nos familles. L'épisode 3 a eu quand même...
C'était une petite bombe,
beaucoup,
ouais.
Voilà, ça a été une bombe quand même pour nous. C'est ça, c'est aussi... Alors là, on va peut-être passer plus du côté psy, du coup, mais c'est aussi, justement, en tant que patiente aussi, serait approprié avoir un droit de parole et de questionnement et de regard sur sa pathologie et sur ce qu'on vit en fait au quotidien moi je sais que dans mon parcours en psychiatrie du coup ça c'est quelque chose qui compte énormément parce que j'ai quand même aussi pendant des années subi un trouble que je comprenais pas que personne semblait comprendre
ça,
que
mais
tout le monde semblait n'en avoir rien à cirer quand même aussi
oui puis rapport, personne ne sait vraiment en fait
voilà le rapport avec le personnel médical a pas toujours été facile donc
on entend 40 millions sons de cloche sur ce trouble de la personnalité en fait
et en tant que patiente souvent on n'est pas pareil, on n'est pas toujours très pris au sérieux.
Oui, c'est ce que j'allais dire, on n'est pas pris au sérieux.
On considère que de toute façon on ne sait pas trop ce qu'on dit, on ne sait pas trop ce qu'on fait.
Non, puis même en fait, nous on sent que. Bon, ça c'est encore. Je pense que voilà, ce sera encore un autre épisode, mais.
Tellement de podcasts à faire.
Oui, non mais. Mais voilà, est-ce que c'est un trouble, est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est un fonctionnement? T'as plein de psys qui vont te dire des choses différentes et en fait. On est les mieux placés quand même pour définir en fait ce que ça nous fait au quotidien et enfin qu'est-ce qu'une maladie. Il y a un moment en fait un trouble et une maladie en fait c'est pareil, et il y a un moment c'est quand ça, ça perturbe ton quotidien et, ton, et ta capacité en fait à être
et ta liberté
le fait de prendre soin de soi en fait et, de vivre en communauté aussi en fait parce que ben en fait enfin on n'y échappe pas et puis c'est quand même enfin on en parlait hier tu vois le fait de
non mais t'as tout dit là.
Voilà, mais ça m'énerve tellement, en fait. Putain, mais ça m'énerve tellement, je te jure. Ils sont déconnectés, en fait, les médecins aussi. Pas tous, hein, je dis pas. Et de plus en plus, en fait, ils s'y intéressent. Et de plus en plus, les psys se forment à ce trouble-là aussi. Et au fait de nous aider. Mais en fait, on n'a pas de réponse, quoi. Et je pense que, du coup, les réponses, elles sont... Enfin, il n'y a que nous qui savons comment aller mieux et comment prendre soin de nous.
Mais c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'on a quand même besoin d'aide concrètement, de thérapeutes, etc., parfois de psychiatres, machin. Et que, en fait, c'est très compliqué de trouver cette aide quand en face, t'as des personnes qui sont pas formées, qui savent pas. Qui ont des a priori aussi, beaucoup, sur ce trouble-là. Pendant très longtemps, les patients border, et c'est peut-être encore le cas, étaient des patients très peu appréciés parce que. Parce que difficile, parce que explosif, ouais, parce que manipulateur, parce que...
Blablabla, bah, tous les stéréotypes.
Voilà, en fait, moi, je me souviens que plein de fois, à chaque fois que j'ai essayé de désamorcer ça chez un soignant, je me sentais pas écoutée, quoi, en fait.
Complètement. C'est de la stigmatisation, en fait. Et du coup, à quel point aussi cette réappropriation et le fait de dire tout haut, en fait, ce qui se passe, c'est... C'est un outil en fait de lutte contre la psychophobie, qu'elle soit au niveau de la société, déjà qu'elle soit intériorisée, parce que voilà, j'en suis l'exemple même, hein, mais ou qu'elle soit au niveau de la société ou au niveau des thérapeutes en fait, parce que la psychophobie dans le milieu médical, c'est juste complètement affolant.
C'est à la fois la sensibilisation du grand public, mais aussi de gens qui sont pas forcément sensibilisés. À tout ce qui est psy, mais aussi des soignants.
Pardon, je t'ai encore coupé.
Non,
mais
je t'en prie.
Du coup, les retours qu'on a aussi, c'est beaucoup de personnes qui ont des troubles psy, ou des personnes qui pensent avoir un trouble psy aussi, mais qui ne savent pas trop. Et des retours de thérapeutes, en fait, beaucoup. Hein. Moi, j'étais vachement étonnée quand même.
De psychiatres, de thérapeutes. Moi, j'en ai eu pas mal.
Psychiatres, d'infirmiers aussi. D'infirmiers, de...
Ouais. Et des très très chouettes retours, en fait, à chaque fois. Non, mais c'est vrai, hein.
Et ça, c'est plutôt chouette, quoi. Ouais. Après, les retours des gens qui nous sont proches, c'est encore autre chose. Mais
non, là, je parlais vraiment des soignants.
Mais pour dire, en fait, à quel point, finalement, je pense qu'on... ça touche, finalement, le public qu'on veut toucher, mais même indirectement... Tu vois, là, on parle, en fait, du fait que c'est un outil, en fait, qui nous permet de nous inscrire dans la société, tout ça. Et finalement, on s'aperçoit, avec les retours qu'on a, que ça touche exactement les espaces, en fait, les espaces où la discrimination est la plus forte, en fait, finalement, et où il manque, en fait, de la compréhension, en fait. Et du coup, mais ça, c'est juste génial, en fait. J'en prends conscience maintenant en parlant.
C'est génial. Mais en plus, il y a quand même une grande méconnaissance je reviens à ça, il y a une grande méconnaissance de ce trouble, parce que même très souvent, quand je parcours les comptes Instagram sur la psy, la psychophobie, etc., le trouble borderline reste quand même très, très invisibilisé, quoi.
Et à chaque fois qu'on en parle, c'est d'une façon très bizarre.
Souvent, les gens se trompent parce qu'en fait, c'est des gens qui veulent quand même en parler, mais ils connaissent pas bien et il n'y a pas beaucoup de sources.
C'est la vision de, voilà, les personnes borderline sont des personnes compliquées, excessives.
Souvent une vision très noire.
Ouais,
très...
et puis excessive, et puis oh là là, faut pas trop les approcher parce que ça va être compliqué. Et puis, enfin, et alors qu'en fait, c'est tellement plus complexe que ça, et qu'il y a un putain de spectre du trouble de la personnalité borderline, et que c'est tellement différent. Bon, bref. Ça, c'est encore autre chose, mais ouais, il y a beaucoup de choses hein, dans ce qu'on dit là. Il hein. y a beaucoup, beaucoup de choses.
Bah, forcément, parce que ça ouvre.
Bah oui.
En fait, nous, quand on a commencé à faire ces podcasts, mais même en nous, je pense que ça a ouvert un espèce de. Enfin, je sais pas, moi j'ai cette sensation. Non, mais ça a ouvert. Non, justement, pas un vortex aspirant comme on peut les connaître, hein, oui. pas le vide, mais un.
Le champ des possibles.
Non, mais c'est ça. Non, mais ça a ouvert un espace.
C'est
oui.
un igloo sans.
Un igloo sans bois, il n'y a plus d'igloo, hein, si t'enlèves le.
Non, mais un igloo sans merde, un
sans
igloo
quoi
ouvert, quoi.
Ah oui.
Un igloo sans quoi sans...
Un igloo sans
glace. On a brisé la glace, comme disait ma mère. Paf, on a tout fait sauter.
Non,
quoi.
Mais oui, enfin, moi je pense qu'il y a un côté. Tiens, on n'a pas dit ce mot, quand même. Hyper libérateur.
Oui.
Dans ces podcasts.
Oui.
Et,
si, libéré.
Et c'est vrai qu'on pourrait parler aussi de toute l'excitation que ça génère pour nous aussi.
Ouais,
enfin, même de. J'irais même jusqu'à dire de la joie, quoi.
Ben oui.
Enfin, tu vois, de l'enthousiasme. Oui. Et une fois qu'on les a fait et qu'on s'est amusé à les faire, et bah, aussi de les partager, l'envie de les partager.
Oui,
et
puis du coup d'échanger aussi
ouais.
Avec d'autres aussi.
Ouais, ouais, ouais. Mais c'est. Non, mais c'est trop bien.
Hein. C'est cool, hein. Regarde. Oh, le gris là derrière. Oh, c'est trop...
Tu veux des photos?
J'ai ouais. Mais ouais.
Bah vas-y.
Ouais, mais c'est pas.
Bon allez, c'était la pause photo. D'ailleurs, j'ai laissé tourner le.
Bon, allez, attends. ASMR. ouais, non, je disais peut-être plus parler de la forme pure et dure, déjà de comment on a commencé, quoi. De commencer avec les messages sur Messenger.
Oui, alors c'est vrai que
petits,
au départ, on était sur Messenger, mais en fait, évidemment, c'était. C'était super compliqué parce qu'on ne peut pas récupérer
les messages
audio ouais. vocaux sur Messenger.
Et la qualité était quand même pas top.
Ben non, parce que du coup, il fallait carrément que je lance les messages sur Messenger pour les réenregistrer sur mon portable. Donc effectivement, la qualité était pourrie et en plus, ça me faisait perdre quand même un temps fou.
Ouais. Du coup, on
du
a...
coup,
basculer sur Telegram.
On a mis le temps, hein.
Oui.
Mais on l'a
pas
fait.
Pas de changement. Du coup, voilà, donc il y a ce côté message enregistré qu'on enregistre de nos discussions à distance.
Ouais.
Et il y a l'investissement dans le
Tascam. Qui est quand même pas si vieux. Enfin, en fait, je l'avais pour l'épisode 3.
Tascam.
Pour les pieds. Ça c'était beau.
C'est comme les prix de foire, tu sais. Oui, pardon.
Oui, donc je l'ai. C'est une acquisition qui est arrivée pour l'épisode 3. Avant ça, on fonctionnait exclusivement par message.
C'est
sur
ça.
Les deux premiers.
C'est ça.
Après, ce qui était intéressant quand même dans les messages, et ce qu'on aimait bien, et ce pourquoi on a voulu les utiliser, c'est ce côté justement.
Quotidien, instantané, oui, c'est ça.
Voilà, instantané, quotidien, témoigner vraiment de notre vie au quotidien, de ce qu'on vivait, et aussi cette intimité qui on sentait pouvait aussi peut-être parler aux gens différemment que peut-être qui peut exister. Voilà, il y a plein de podcasts qui existent sur la psy. Qui sont souvent très bien, mais qui voilà, sont souvent très cadrés,
très policés.
Voilà, et la parole des fous, entre guillemets, est quand même souvent très contrôlée, quoi, très cadrée. Et,
oui, et finalement, on ne s'immerge pas vraiment dans la réalité du quotidien et dans la réalité du trouble, alors que.
Ouais. Mais nous, c'est ça, c'est-à-dire que nous, on voulait avoir. On voulait non seulement avoir la parole, mais on voulait aussi avoir la narration. C'est-à-dire la façon, parce
tout
que c'est ça qui est important, c'est que souvent on peut nous donner la parole, mais on nous donne pas la narration, quoi, le contrôle de la façon dont cette parole va être utilisée. Et nous, on voulait vraiment ça. On voulait pouvoir dire les choses telles qu'on a envie de les dire et montrer ce qu'on avait envie de montrer sans censure. Je tiens quand même à préciser que c'est pas complètement de l'intimité, parce que effectivement, même si on utilise une part d'intimité,
on choisit ce qu'on dit quand même.
C'est choisi, c'est monté, remonté, découpé, recollé. Donc en fait, c'est une intimité qui est reconstruite, qui est recomposée en fait. Et c'est là effectivement que c'est de la création.
Mais ça reste une forme brute.
Et
d'ailleurs, bon, du coup, on y vient. Mais ce qui est important aussi là-dedans, c'est que en fait, dans les autres podcasts sur les troubles psy, il y a un côté quand même souvent hyper sérieux,
officiel.
Et alors que, en fait, nous, on a gardé, ça nous permet, cette forme nous permet de garder cette dose d'humour qui nous accompagne franchement dans nos vies.
Heureusement,
et je pense que voilà, c'est un outil de survie, hein, et même si des fois c'est un bon gros sarcasme, il y a quand même une part de folie qui est vraiment portée par l'humour, et ça en fait ça se voit pas, enfin j'ai pas l'impression de le voir apparaître trop souvent, quoi, dans les podcasts qui ont un sérieux, qui sont super. Et je dis pas que c'est pas sérieux ce qu'on fait, hein, justement.
Non, mais c'est ça, c'est comment faire du sérieux et aussi de l'informatif, etc.
C'est ça.
Mais tout en ayant une forme.
Oui, puis la forme artistique aussi qui fait que, enfin.
Oui.
Qui fait que c'est aussi. Ça rend la chose aussi plus légère, mine de rien, aussi, et plus. Comment parler de choses profondes et parfois très pesantes,
c'est ça.
Mais sous une forme abordable aussi, finalement.
Oui, et puis tout en gardant la vie, la vitalité et l'humour dont tu parlais, etc., qui sont là aussi, en fait.
Bah oui, bien sûr. Sinon,
et je pense que c'était ça aussi l'intérêt de vouloir garder les messages, etc. C'était quand même ce truc de vouloir garder... quelque part ce qu'on partage aussi, cette vie qu'il y a et cet enthousiasme aussi qui nous avec lesquels on se contamine. Je sais que t'aimes pas ce mot, je suis désolée. Pardon, excuse-moi. Tu l'as employé toi-même la dernière fois.
Oui, ça va. Dans ce sens-là, ça me va. Non, mais c'est ça, c'est conserver une certaine réalité, en fait.
Parce que c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ça fait partie de la réalité, fait. Et souvent, c'est vrai que dans la forme très sérieuse et très cadrée des podcasts, on perd, en fait, finalement, un peu la réalité de la vie, quoi, et des émotions qui nous traversent.
Il y a du mouvement, quoi. Il y a un mouvement, en fait. Il y a un mouvement, et moi, ça me plaît.
Quand je fais le montage, en fait, des podcasts, donc j'utilise en fait les messages qui sont dans la bibliothèque, notre énorme bibliothèque de messages. Je ramène des sons, alors parfois c'est des musiques qu'on propose l'une ou l'autre, ou qu'on choisit ensemble. Et aussi je viens rajouter quelques compositions. En fait, j'utilise un Playtron du studio Playtronica.
Playtronica.
C'est comme des petits interludes, en fait, soit au piano, soit avec des sons électro, et ça permet de venir ponctuer les podcasts, en fait, et tout ce qu'on dit, ça m'aide à venir structurer, en fait, au montage aussi, et à permettre à ce que ce soit peut-être moins indigeste aussi, d'avoir ces petites pauses comme ça, ces petits interludes musicaux.
Les titres et les photos sont choisis à la fin. Une fois que l'épisode est vraiment, que le montage a été fait, en fait. Et à ce moment-là, ça apparaît un peu comme une évidence la plupart du temps. Hein. Voilà, la photo du 3, c'était quand même assez ouf de tomber sur ce square abandonné avec ce flingue dessiné au mur. Et enfin, voilà, l'enfance, l'enfance qui a été meurtrie, quoi. C'est vraiment ça. Et c'était dingue de tomber dessus à ce moment-là. Et ouais, le fait d'être venu pendant ta séance tatou aussi. Enfin, à chaque fois, c'est des moments, encore une fois, qui sont improvisés, en fait. C'est un peu ça aussi, hein. Comme si ça venait à nous naturellement, en fait. C'est assez. Jusque dans la photo finale et le titre du truc, enfin, c'est super abouti, en fait.
Chaque épisode est un peu une surprise parce que finalement, on adapte toujours notre façon de travailler. Les podcasts se créent aussi en respectant nos rythmes de vie, en fait.
Ouais.
On s'adapte en fait avec nos besoins, nos moyens, nos capacités sur le moment, sur l'instant, parce que tout n'est pas linéaire et que nos vies sont franchement pas très calmes
Tout
et
repos.
De tout repos et que voilà, même si on essaie d'avoir une certaine régularité, finalement les choses se font un peu de façon assez fluide et assez bah, c'est respecter finalement qui on est. Et je pense que ça part de là, en fait.
Oui,
Parce
et
que
puis
si on fait pas ça, c'est...
Mais je pense que ça nous rend créatifs, du coup. Parce que, en fait,
Complètement.
voilà, c'est jamais pareil. Et puis, en plus, si c'était tout le temps pareil, on s'ennuierait. Enfin, je pense que toi comme moi, hein, on connaît bien notre fonctionnement maintenant. Et je pense que si on procédait toujours de la même façon, on s'ennuierait, en fait. Et là, ce qui est génial, c'est que finalement, chaque épisode. Bah, un coup on se retrouve chez un tatoueur, un coup on se retrouve dans un igloo, un coup on se retrouve.
On lui hurle à la lune.
Oui, voilà, enfin, et c'est des choses qui sont prévues mais pas prévues, qui sont prévues au dernier moment, qui se font. Et ça, je trouve ça trop bien parce que finalement, chaque enregistrement dans un podcast aussi est une expérience en soi, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, tu vois.
Complètement. Après, il y a aussi le fait de. Peut-être la volonté aussi de faire les choses de manière peut-être un petit peu plus structurée
Oui, mais ça n'empêche pas
et
d'ailleurs.
réfléchie dans le sens, voilà, parce qu'on a plein, finalement, tous ces messages-là qu'on a, tout le stock qu'on a, mon Dieu, ce stock.
En fait, on met chacune des messages de côté au cours des conversations qu'on a. Ensuite, on met toutes les deux ces messages au même endroit sur le drive.
Voilà, on a un drive partagé. On a tellement de matière qu'il va falloir se poser, en fait, vraiment, Voilà, donner un. Ouais, c'est un nouveau palier.
Oui, c'est ça, mais je pense que ça
Un
sera
nouveau
tout
palier,
seul
ouais.
en fait. En tout cas, on a plein d'idées en stock, ça c'est sûr, avec aussi des envies militantes. Voilà.
Oui, à quel point. Quel est le degré d'engagement. Voilà. Quel est
Qu'on
le
a envie
degré
de. Ouais.
d'engagement. Comment on veut s'inscrire plus là-dedans ou pas, parce que.
C'est pas toujours le cas.
Parce que des fois, on n'a pas envie, hein?
C'est
Mais en
pas
fait, on
toujours
n'a pas
le cas.
vraiment le choix. On n'a pas le choix
Parce que c'est ce qu'on vit en fait.
parce que c'est ce qu'on vit et que en fait, on peut pas juste fermer les yeux sur ce qu'on vit
Et ça nous révolte en
et ça nous
fait.
révolte, et
Aussi,
qu'à
c'est
un
ce qu'on.
moment, en fait, il faut qu'on change les choses et que ça passe par cette révolte-là et par nous et que justement, nous, on bouillonne tellement d'émotions qu'il y a un moment, ben, voilà, on revient au fait qu'il faut en faire quelque chose et qu'on peut en faire quelque chose de positif et Après, voilà, des fois, on aimerait juste avoir la paix, quoi. Autant au niveau intime et personnel qu'au niveau collectif, quoi. Mais voilà, moi, je pense qu'on n'a vraiment pas le choix. Et que, en fait, si on met ça de côté, bah, ça en devient une charge, en fait. Enfin, hein, ça bouillonne, quoi, tout simplement, en fait. Ça
Ouais,
bouillonne.
mais c'est ça qui est un peu, voilà, en fait, c'est vrai que parfois ça peut être dur et qu'on n'a pas toujours envie de se sentir investi de cette mission,
C'est ça, c'est
entre
ça.
guillemets, mais en même temps, quand on le fait pas, finalement, on se sent pas bien non plus
C'est ça.
parce que de toute façon, on le porte quoi qu'il en soit, donc est-ce qu'il vaut mieux pas le porter haut et fort quelque part? Au moins, on se l'approprie, au moins, on le dit comme on veut, au moins, on le transforme, au moins, ça nous fait avancer, plutôt que de finalement subir ça dans tous les cas, quoi.
Voilà, c'est ça.
Ça se dit pas, les coulisses. Meuf, j'avais des brindilles dans les cheveux. C'est aussi ça les coulisses de ça se dit pas, c'est des jeans qui sentent la menthe, des bleus et des écorchures sur les genoux et des brindilles dans les cheveux, normal.
Lundi podcast, l'avenir est déjà plus vaste. En fait, je peux te dire absolument n'importe quoi sur en mode jingle. Le Tascam, c'est trop de la bonne cam. L'igloo dans le jardin, il est vachement bien. Tu vois, je peux tout faire en fait.
C'est trop bien.
C'est vraiment une immersion.
C'est une immersion dans le quotidien avec une maladie psychique, c'est vraiment ça. Et c'est des subjectivités, c'est nos subjectivités c'est aussi. Ça. Plus on pense et plus on réfléchit et plus on prend du recul sur un trouble, en fait, etc., je pense. Et plus il me semble qu'après, justement, on arrive à l'aborder de manière, voilà, oui, plus complète et diverse, en fait. Oui, et que, au contraire, ce serait la meilleure façon de coller au truc, ce serait justement de surtout pas en parler et de surtout pas... le questionner, en fait. Et ce qu'on fait, c'est qu'on le questionne, finalement, de plein de manières différentes.
C'est ça,
on questionne ses conséquences dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres. Il me semble qu'en collectant comme ça nos expériences, tu vois, presque en les collectionnant, j'ai envie de dire, enfin, moi, j'ai l'impression que ça me permet d'acquérir plein de visions et de points de vue sur ce trouble, en fait, tu vois, et plein de façons de le voir de manière différente, et du coup d'en avoir une vision peut-être vachement large.
Oui, et qu'est-ce qui est vraiment
qui est propre au trouble, et qu'est-ce
qui lui a été foutu sur la gueule aussi dans un monde validiste, en fait, dans une société validiste, parce que, en fait, qu'est-ce qui est normal, voilà, encore une fois.
Et sexiste, c'est encore... parce que rappelons quand même que le trouble border, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'est encore un peu en train de changer, mais c'était des diagnostics à 80%, voire peut-être même plus, de femmes, des femmes.
Pourquoi? Parce que
émotion.
Parce que émotion, et parce que ça s'inscrit différemment aussi, quand on sait que en fait, les femmes ont la charge de l'émotionnel dans un couple.
Et hop là, on se reprend à un couple hétérosexuel. Je tenais à le préciser, à quel point nous sommes formatés dans ce putain de monde.
Tu vois, de l'entretien de la relation, en fait. Quand on sait que les femmes, du coup, vont plus consulter, quand on sait que les hommes, du coup, dans leur masculinité toxique, sont plus violents
impulsifs,
et que, en fait, du coup, c'est considéré comme normal, et que, du coup, en fait, on voit pas que derrière il y a un trouble. Enfin, c'est là-dessus, en fait, qu'on veut agir, en fait.
C'est encore ce qu'on subit, oui.
Voilà,
encore
aujourd'hui. Et c'est ces six visions-là, en fait, qui doivent changer, en fait, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis énervée.
Ouais, je vois ça.
Mais tout ça, ça se dit pas.
Ça se dit pas.
Ça ne se dit pas.